Bonjour.
Nous sommes Nathalie Cheval-Arias, professeure de mathématiques,
et Julie Vino, professeure de lettres.
Nous avons imaginé un MID, un module interdisciplinaire, ou LP2I, c'est-à-dire un cours de 2 heures par semaine adressé à des élèves de seconde, où nous avons donc mêlé nos 2 disciplines, le français et les mathématiques, au premier trimestre pour porter cette problématique, l'invisibilisation des femmes dans les sciences et en littérature.
Par exemple, nous sommes partis de cette question, mais comment est-ce possible que l'histoire littéraire ne retienne quasiment que des hommes ?
Et pourquoi connaît-on si peu de noms de femmes scientifiques ?
Les élèves ont donc travaillé par groupe, fait des recherches, parfois des interviews, pour tenter de répondre à cette question de l'invisibilisation des femmes. Ils et elles ont fait des podcasts que l'on vous propose d'écouter.
Belle écoute à vous !
Bonjour à tous nos auditeurs, auditrices. Nous sommes des élèves du LP2I et nous vous retrouvons aujourd'hui sur Delta FM pour vous parler de l'invisibilisation des femmes dans le milieu mathématique et littéraire que nous avons pu étudier grâce à notre MID qui relie les mathématiques et le français. Tout d'abord, nous allons vous expliquer ce qu'est l'invisibilisation des femmes.
L'invisibilisation du travail des femmes fait référence à la tendance à sous-estimer et à ignorer une grande partie du travail effectué par les femmes. Par exemple, dans les manuels scolaires, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Dans certains cas, les femmes ne sont pas représentées.
Les études de genre montrent que l'absence de femmes dans les métiers scientifiques est la conséquence de constructions sociales selon laquelle certains métiers ne sont pas faits pour les femmes ou pour les hommes. L'effet Matilda est le déni, la spoliation ou la minimisation récurrente et systématique de la contribution des femmes à la recherche scientifique, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. L'effet Matilda, attribution des découvertes scientifiques féminines à un collègue masculin. L'intervention très peu régulière des femmes sur les chaînes d'information à propos de questions scientifiques ou littéraires.
Maintenant que vous savez de quoi nous parlerons, nous allons pouvoir vous présenter le parcours de 2 femmes hors normes qui ont pourtant été invisibilisées. L'une représentera le domaine littéraire et l'autre le domaine scientifique.
Dans le domaine littéraire, nous retrouvons Zelda Fitzgerald, qui était une artiste américaine. Elle écrivait, peignait et dansait. Elle a épousé Scott Fitzgerald, l'auteur de Gatsby le Magnifique, et pendant longtemps, on l'a surtout vue comme sa muse. En 1932, elle publie Save Me the World, un roman inspiré de sa propre vie. Mais son mari critique le texte et le fait modifier et lui interdit d'utiliser certains souvenirs qu'il voulait garder pour ses propres livres. Zelda n'a donc pas pu s'exprimer librement. À l'époque, les femmes artistes étaient souvent mises de côté, surtout face à des hommes célèbres. Son œuvre a été oubliée pendant des années. Elle a aussi souffert de troubles mentaux, ce qui a renforcé son image de femme instable. Aujourd'hui, on redécouvre enfin son talent et son besoin d'exister comme autrice à part entière.
La seconde femme que nous tenions à vous présenter est Amy Noether, grande mathématicienne du XXe siècle. Est considérée comme la mère de l'algèbre moderne. Ses travaux sur les structures d'anneaux, les idéaux et l'algèbre non commutative ont profondément marqué les mathématiques. Elle a aussi contribué à la naissance de la topologie algébrique et formulé le célèbre théorème de Noether qui relie les symétries des lois physiques et des lois de conservation, un résultat salué par Einstein comme un monument de la pensée mathématique. Dans une époque où les femmes étaient cantonnées aux enfants, cuisine et église, Noether dut affronter une forte misogynie. Seule femme parmi 986 étudiants, elle soutint sa thèse en 1907 sur les invariants algébriques.
Repérée par David Hilbert, elle enseigna à l'université de Göttingen. Mais sans salaire, les femmes ne peuvent être professeurs. Malgré le mépris de certains collègues, elle persista grâce au soutien de Hilbert et de sa famille, donnant parfois ses cours sous le nom de son père ou de Hilbert pour être acceptée. De nombreux savants juifs, dont Einstein, Gödel, etc., furent chassés des universités allemandes et n'eurent d'autre choix que d'immigrer. Amy Noether émigra aux États-Unis où, avec l'appui d'Einstein et le financement de la fondation Rockefeller, elle trouva un poste au Bryn Mawr College. Pour donner ses cours, un arrangement fut pris avec le prestigieux Institute of Advanced Studies de Princeton, où enseignait Einstein. 18 mois après son arrivée, elle décéda lors d'une opération bénigne en 1935. En son honneur, un cratère de face cachée de la Lune et un astéroïde portent son nom.
Pour conclure, nous avons réfléchi tous ensemble à plusieurs solutions pour vaincre cette invisibilisation des femmes en sciences et en littérature. Pour nous quatre, il est essentiel de publier davantage les travaux réalisés par les femmes afin de leur donner la visibilité qu'elles méritent et de reconnaître leurs contributions intellectuelles. La création de maisons d'édition fondées par des femmes et dédiées à la promotion des autrices et chercheuses permettrait de renforcer leur présence dans le paysage culturel et académique. Les manuels scolaires doivent valoriser les travaux féminins en intégrant des exemples, des extraits et des études de cas issus de femmes écrivaines, mathématiciennes ou scientifiques.
Il est nécessaire de consacrer des chapitres entiers aux femmes scientifiques et littéraires dans les programmes scolaires pour que leur histoire et leur découverte soient enseignées au même titre que celles de leurs homologues masculins. Il faut cesser de sexualiser les femmes dans les domaines scientifiques et littéraires en mettant fin aux représentations stéréotypées qui réduisent leur rôle à leur apparence ou à des clichés genrés.
Enfin, il est crucial d'arrêter de dévaloriser les femmes et leurs travaux en reconnaissant pleinement leur expertise, leur rigueur et leur créativité. Surtout que beaucoup de femmes sont encore invisibilisées comme Sylvia Serfati, qui est une mathématicienne française et professeure à l'université Pierre et Marie Curie. Elle fait énormément de choses, elle est même nominée à des prix et des postes prestigieux. Je vous invite à aller voir ses travaux. Nous espérons que vous avez pu en apprendre davantage et nous vous remercions pour l'attention que vous nous avez portée.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Delta FM, la radio du LP2I. Aujourd'hui, on parle d'un sujet important, l'invisibilisation des femmes. C'est un mot compliqué qui veut dire qu'on oublie ou qu'on cache le rôle des femmes dans l'histoire, dans la science ou même dans la littérature. Alors qu'elles ont fait plein de choses, mais souvent, on ne les cite pas ou on donne tout le mérite aux hommes autour d'elles. Dans cette émission, on vous explique ce phénomène, on donne des exemples et on se demande comment faire pour que ça change.
L'invisibilisation, c'est quoi ? C'est quand les femmes ont contribué à des découvertes ou des œuvres mais qu'on ne le voit pas. Parfois, on prend même leur travail et on le donne à quelqu'un d'autre. En science, on appelle ça l'effet Mathilda. Des femmes trouvent des idées, mais ce sont les hommes qui sont récompensés. Et en littérature, certaines femmes ont dû utiliser des pseudonymes masculins pour pouvoir être publiées.
L'exemple le plus connu en informatique, c'est Ada Lovelace. Au 19e siècle, elle invente le premier algorithme, c'est-à-dire une sorte de programme. Mais cependant, il y a très longtemps, on disait que l'idée venait surtout de Charles Babbage, son collègue, alors que sans Ada, il n'y aurait point de programmation moderne.
En mathématiques, il y a aussi Mariam Mirzakhani, une mathématicienne iranienne. En 2014, elle devient la première femme de toute l'histoire à recevoir la médaille Fields, le prix le plus prestigieux en maths. C'était en 2014, alors que la médaille existe depuis 1936. Ça montre qu'il y a encore des progrès à faire pour reconnaître les femmes.
Et il y en a beaucoup d'autres. Les sœurs Emily et Florence Nightingale, pionnières de l'utilisation des statistiques, Margaret Hamilton, qui a écrit le code informatique ayant permis d'envoyer Apollo 11 sur la Lune, et Katherine Johnson, une des scientifiques de la NASA, longtemps oubliée, avant le film Les Figures de l'Ombre.
Passons maintenant à la littérature. Là aussi, beaucoup de femmes ont été oubliées.
Tout le monde connaît Frankenstein, mais on oublie souvent que c'est une femme, Mary Shelley, qui l'a écrit. À sa sortie, certains disaient que c'était trop sérieux pour avoir été écrit par une femme. Autre cas, Colette. Ses premiers livres ont été publiés sous le nom de son mari, Willie, qui prenait le crédit. Il faudra plusieurs années pour qu'elle publie enfin sous son propre nom.
Il y a aussi George Sand, une femme qui a dû prendre un nom masculin pour être prise au sérieux. Et plus récemment, certaines actrices de SF, comme Ursula Le Guin, expliquent qu'on les mettait de côté parce qu'elles n'étaient pas assez scientifiques alors que leurs romans sont étudiés dans le monde entier aujourd'hui.
Comment réduire l'invisibilisation ? D'abord, on peut en parler. Les profs, les chercheurs, les élèves peuvent remettre ces femmes dans les cours et dans les exposés.
On doit aussi les citer dans les projets scientifiques, dans les sources, dans les bibliographies. Si on les cite leurs travaux, elles deviennent visibles.
En littérature, on peut lire leurs livres, les étudier, les conseiller. Quand on découvre un texte d'une autrice oubliée, on peut le partager.
Et enfin, on peut mettre en avant les femmes d'aujourd'hui. Chercheuses, autrices, informaticiennes, Elles sont nombreuses, mais on ne les montre pas assez. L'invisibilisation des femmes n'est pas une fatalité. Il suffit parfois d'un nom cité, d'un livre lu, d'un exposé bien fait pour changer les choses. Faire apparaître les femmes qui ont été effacées, c'est rééquilibrer l'histoire. Merci à Charlotte, Van et Rose pour cette émission et merci à vous d'avoir écouté. À très bientôt.
Bonjour et bienvenue sur Delta FM. Aujourd'hui, nous allons vous présenter à travers cette interview deux figures iconiques de l'invisibilisation des femmes. En premier lieu, nous allons vous faire connaître Margaret Hamilton, une grande mathématicienne, scientifique et spécialiste en informatique. Puis, en second temps, Delphine de Girardin, une écrivaine du 19e siècle.
Mais pour commencer, qu'est-ce que l'invisibilisation des femmes ?
L'invisibilisation des femmes est un phénomène récurrent qui consiste à effacer ou minimiser les contributions féminines dans divers domaines, souvent en raison de structures patriarcales dominantes.
Pourquoi cela n'arrive qu'aux femmes ?
Les femmes souffrent de l'invisibilisation pour plusieurs raisons, principalement liées à la domination patriarcale de la société. Ce système social, où le pouvoir et l'autorité sont principalement détenus par les hommes, a largement contribué à l'invisibilisation des femmes. Les femmes souffrent de l'invisibilisation pour plusieurs raisons, principalement liées à la domination patriarcale de la société. Ce système social, où le pouvoir et l'autorité sont principalement détenus par les hommes, a largement contribué à l'invisibilisation des femmes. Le récit historique et les lois de la société patriarcale ont souvent omis les contributions féminines, les rendant invisibles dans la société. Je laisse place à Jean-Marc, qui va donner la parole aux deux femmes soumises à cette invisibilisation.
Bonjour Madame Hamilton.
Bonjour, c'est un immense plaisir d'être reçue sur ce plateau aujourd'hui.
Margaret Hamilton, vous êtes connue pour avoir joué un rôle clé dans les missions Apollo. Pouvez-vous me dire en quoi consistait votre travail ?
J'ai dirigé l'équipe du MIT chargée de développer le logiciel embarqué pour la NASA. Notre mission était de créer un programme fiable, capable de gérer toutes les situations imprévues lors des vols spatiaux.
On raconte que votre code a sauvé l'alunissage Apollo 11.
En effet, lors de la descente vers la Lune, des alarmes se sont déclenchées à cause d'une surcharge du système. Grâce à notre logiciel, qui avait hiérarchisé les tâches essentielles, le module a pu continuer sa manœuvre et se poser en toute sécurité.
Vous êtes aussi à l'origine du terme « software engineering ». Pourquoi était-ce important pour vous ?
Parce que je voulais que la programmation soit reconnue comme une véritable discipline d'ingénierie, avec la même rigueur et le même respect que l'ingénierie matérielle.
Votre héritage est immense. Sans vous, l'histoire de l'informatique et de la conquête spatiale n'aurait pas été la même.
Maintenant, nous laissons place à Delphine de Girardin.
Bonjour Delphine.
Bonjour.
Delphine de Girardin, vous êtes une figure marquante du 19e siècle. Comment définiriez-vous votre rôle dans la vie littéraire et journalistique de votre époque ?
J'ai été poétesse, romancière, dramaturge et chroniqueuse. J'ai tenu un salon où se retrouvaient écrivains et artistes romantiques et j'ai écrit pendant plus de 10 ans les lettres parisiennes sous le pseudonyme du vicomte de Launay. Publié dans la presse, le journal fondé par mon mari, Émile de Girardin.
Vos chroniques ont marqué l'histoire du journalisme. Qu'apporterait-elle de nouveau ?
Elle mêlait observation sociale, esprit critique et élégance littéraire. J'ai contribué à populariser le feuilleton, une forme nouvelle qui rendait la presse plus vivante et accessible. C'était une manière de donner une voix féminine dans un monde médiatique largement masculin.
Vous avez aussi été surnommée Muse de la Patrie. Que signifiait ce titre pour vous ?
Il rappelait mes débuts poétiques, où mes vers étaient célébrés pour leurs éclats et leur patriotisme. Mais au-delà de la poésie, j'ai voulu montrer que les femmes pouvaient être des actrices majeures de la vie intellectuelle et médiatique.
Votre héritage est celui d'une pionnière de journalisme et d'une femme de lettres qui a su s'imposer dans une société encore très fermée aux femmes.
C'est donc la fin de cette émission. Merci aux intervenants d'avoir fait le déplacement pour cette interview. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions, podcasts, ainsi que nos playlists musicales sur notre site internet. C'était Bob, en direct de Delta FM, et à la prochaine.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous écoutez la radio du LP2I, nous allons vous présenter le thème de notre émission, l'invisibilisation des femmes dans le monde de la science et de la littérature. L'effacement des femmes est un phénomène récurrent qui consiste à cacher, effacer, invisibiliser les femmes et les références féminines dans différentes sphères de notre société. Aujourd'hui, nous recevons trois invités qui chacun abordera sous un angle différent l'invisibilisation des femmes dans la science et la littérature. Noah vous évoquera ce phénomène en science. Anna nous parlera de l'effacement des femmes en littérature. Nous terminerons avec Karamba qui nous donnera quelques statistiques de cette invisibilisation en prenant comme exemple les prix Nobel.
Alors pour commencer, on appelle un phénomène systémique qui consiste à rendre invisible le nom des grandes femmes de science, l'effet Mathilda. C'est un concept qui rend hommage à Mathilda Jocelyn Gage, une militante féministe qui s'est battue pour les droits des femmes. Beaucoup de femmes ont donc souffert de l'effet Mathilda, comme Marthe Gauthier qui est une médecin française et découvreuse de la trisomie 21. Marthe Gauthier aura dû attendre un demi-siècle avant d'être reconnue comme telle pour son indispensable contribution aux recherches. Ou encore Ada Lovelace, 1815-1852, qui est une mathématicienne britannique. Elle est à l'origine de ce que l'on considère aujourd'hui comme le premier programme informatique de l'histoire, mais les travaux ont été oubliés puis repris par Alan Turing, un mathématicien britannique, qui s'en est vu attribuer tous les mérites.
Les autrices ont rarement eu accès à la légitimité de leur masculin. À travers les siècles, de nombreux mécanismes d'annihilation ont entraîné la quasi-disparition des autrices dans le patrimoine littéraire français. Comme par exemple, la disqualification systématique, la silenciation pure et simple lorsqu'elle devenait trop revendicatrice, ou encore plagiat ou occultation par leur époux, frère ou père. Elles étaient reléguées au rang de muses, leur patronyme était masculinisé. Les autrices étaient des alibis du syndrome de la Schtroumpfette, c'est-à-dire la surreprésentation des protagonistes masculins dans les œuvres de fiction au détriment des protagonistes féminins. On peut par exemple citer Germaine de Staël, une écrivaine et philosophe qui, pendant son époque, a joué un rôle important dans la littérature. Mais la reconnaissance de ses œuvres a souvent été effacée par celle de ses homologues masculins. À son époque, les femmes étaient rarement perçues comme des figures de pouvoir intellectuel. Aujourd'hui, Germaine de Staël est enfin reconnue comme une grande femme de la littérature, mais son travail a été longtemps ignoré ou minimisé.
Pour nous rendre compte de l'importance de l'invisibilité des femmes, nous allons vous donner quelques statistiques en analysant les prix Nobel. On peut observer donc deux phénomènes. Le premier, seules 50 femmes ont été nobélisées, ce qui représente à peu près plus de 5% des prix. Le deuxième, c'est la genrisation des récompenses, puisque la moitié des femmes nobélisées l'ont été en littérature et pour leurs actions en faveur de la paix. Pour continuer, si on s'intéresse aux données depuis la Fondation Nobel, on remarque qu'entre 1901 et 2022, 894 hommes ont reçu un prix contre 60 femmes. C'est seulement 6,3%. En revanche, dans les 83,7% d'hommes remerciés, rien n'a dit combien de prix auraient en réalité dû revenir à leurs homologues féminins.
Pour conclure, on peut dire que les femmes ont trop souvent été méprisées dans la littérature et dans les sciences, et même dans d'autres domaines. Pour leur rendre hommage, mettre en lumière leur travail qui a été négligé auparavant est aussi une façon d'inciter les femmes d'aujourd'hui à continuer leur travail et à essayer de changer les choses. Pour remédier à la discrimination envers les femmes, il est essentiel de garantir la parité dans les jurys, d'encourager les jeunes filles à s'engager dans la recherche, de soutenir les femmes dans leur carrière, de les aider à dépasser l'autocensure et d'impliquer pleinement leurs collègues masculins. Ces actions combinées permettent de réduire les inégalités et de renforcer la place des femmes dans tous les domaines.
Bonjour et bienvenue sur notre interview. Nous allons vous parler de la place des femmes dans les sciences et la littérature. Aujourd'hui, deux étudiants dans littérature et en sciences humaines sont venus nous parler de Louise Collet et Rosaline Franklin, qui sont deux femmes qui ont été invisibilisées. Pour commencer, qui était Louise Collet et pourquoi s'intéresse-t-on encore à elle aujourd'hui ?
Louise Collet était une poétesse et écrivaine française du XIXe siècle. On s'intéresse encore à elle parce qu'elle a eu une relation importante avec Gustave Flaubert et que leurs lettres montrent comment il écrivait Madame Bovary, car il expliquait pas à pas comment il écrivait son œuvre et ses soucis rencontrés pour l'écriture d'un des plus grands romans du XIXe siècle. On la redécouvre aussi comme une femme de lettres courageuse dans une époque où il était difficile pour les femmes d'être reconnues.
Et pourquoi dit-on que sa relation avec Flaubert était déséquilibrée ou compliquée ?
Leur relation était compliquée car ils n'avaient pas les mêmes attentes. Louise Collet était très amoureuse et souhaitait une relation stable, alors que Flaubert, lui, refusait de s'engager dans une relation car il tenait à sa liberté et qu'il plaçait la littérature avant tout, même avant sa vie amoureuse. Pour lui, l'amour était secondaire. Et d'un point de vue géographique, c'était assez compliqué. Lui vivait près de Rouen, à Croisset, et elle vivait à Paris.
Quel rôle a joué Louise Collet dans la naissance de Madame Bovary ?
Louise Collet n'a pas participé directement à l'écriture de Madame Bovary, mais elle a joué un rôle très important autour de sa création, car elle a été la confidente de Flaubert. Elle l'a encouragé. Dans leurs lettres, on peut voir qu'elle le soutient quand il est découragé, ce qui l'aide à continuer son roman. Et grâce à elle, on possède aujourd'hui des témoignages précieux sur la façon dont Flaubert a écrit son roman.
Mais donc, pourquoi son œuvre a-t-elle été oubliée ou minimisée au fil du temps ?
Car au XIXe siècle, les femmes écrivaines n'étaient pas prises au sérieux. Les critiques parlaient souvent de leur vie privée plutôt que de leurs livres. On a longtemps parlé d'elle surtout comme de la maîtresse de Flaubert. Son nom restait lié au sien, ce qui a fait oublier qu'elle avait sa propre œuvre. Contrairement à Flaubert, Balzac ou Hugo, elle n'avait pas un réseau assez puissant pour défendre ses livres après sa mort. En résumé, l'œuvre de Louise Collet a été oubliée surtout parce qu'elle était une femme dans un milieu dominé par les hommes et parce que son image a été réduite à sa relation avec Flaubert.
Et quel thème revenait souvent dans ses poésies ou ses romans ?
Pour faire simple, les thèmes qu'elle aborde sont la condition des femmes, l'amour et ses souffrances, la place de l'artiste, la critique de la société, la souffrance, la solitude, la politique et la liberté.
Mais alors pourquoi Louise Collet refusait-elle de prendre un pseudonyme masculin comme beaucoup d'autres femmes ?
Elle refusait de prendre un pseudonyme masculin car elle voulait être reconnue comme une femme écrivaine et qu'elle défendait l'émancipation des femmes. Elle avait surtout une forte confiance en elle et en son talent et croyait en sa valeur d'écrivaine. Et elle voulait que ses œuvres soient connues sans avoir besoin d'un déguisement littéraire. En gardant son nom, elle tenait à être un modèle pour les femmes qui rêvaient d'écrire et qui n'osaient pas, car à cette époque, c'est un monde principalement réservé aux hommes.
Mais comment a-t-elle vécu ces dernières années et pourquoi est-elle morte dans la précarité ?
Louise Collet a terminé sa vie isolée et pauvre, non pas parce qu'elle manquait de talent, mais parce que son œuvre n'était plus reconnue et que les femmes écrivaines n'avaient pratiquement aucun soutien économique à son époque. Après sa rupture avec Flaubert, elle est tombée dans l'oubli, car elle n'était plus la maîtresse de Flaubert, ce qui a fortement diminué ses revenus et son nombre de ventes. Et à son âge, 60 ans, elle n'avait ni pension ni héritage pour subvenir à ses besoins seuls.
Et donc, qu'aimeriez-vous que le public retienne aujourd'hui de Louise Collet et de son œuvre ?
J'aimerais que le public retienne que Louise Collet a été une vraie écrivaine qui a publié des poèmes et des romans et qu'elle a été récompensée plusieurs fois pour ça, ce qui était rare pour une femme au XIXe siècle. Que ce n'est pas seulement la maîtresse de Flaubert comme l'étiquette qui lui a été mise quand elle a commencé à se faire connaître. Je souhaite aussi que le public sache qu'elle était engagée dans ses poèmes. Elle abordait des sujets comme la liberté, la justice et surtout les conditions des femmes, qui est encore un thème actuel. J'aimerais qu'on se souvienne de Louise Collet comme d'une poétesse talentueuse, d'une femme forte et d'une figure littéraire importante.
Très bien, merci. Maintenant, nous allons parler de Rosalind Franklin. Donc, qui était Rosalind Franklin et pourquoi son travail est-il si important aujourd'hui ?
Rosalind Franklin était une chimiste et cristallographe britannique. Son expertise exceptionnelle en diffraction des rayons X a permis d'obtenir des images d'une précision inédite de structures biologiques, ADN, virus, charbon, graphite. Son travail est crucial car il a fourni les données expérimentales décisives qui ont rendu possible la découverte de la structure en double hélice de l'ADN, fondement de toute la biologie moderne. Elle a également posé des bases essentielles pour la biologie structurale et la virologie.
Donc, pourquoi dit-on que sa collaboration avec Watson et Crick a été compliquée ou injuste ?
Parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de vraie collaboration. Des éléments ont été jugés injustes, comme des données non publiées de Franklin ont été communiquées à Watson et Crick par le rapport du King College présenté à Cambridge à son insu. Watson et Crick ont bâti leur modèle en s'appuyant directement sur ces informations cruciales. Franklin n'a pas été reconnu lors de la publication initiale du modèle en 1953. Elle est décédée en 1958. Le prix Nobel de 1962 pour la découverte de la structure de l'ADN fut attribué sans elle aux trois hommes.
Mais donc, quel rôle exact a joué Rosalind Franklin dans la découverte de la structure de l'ADN ?
Son rôle fut central et déterminant. Elle a obtenu les clichés de diffraction les plus nets, notamment la photo 51, révélant clairement la structure hélicoïdale. Elle a calculé avec une grande rigueur les paramètres géométriques de la molécule, distance entre les bases, diamètre de l'hélice, symétrie. Elle a identifié l'existence de deux formes d'ADN, A et B, et compris leurs relations. Sa méthode expérimentale très contrôlée a fourni les données les plus fiables utilisées par Watson et Crick. On peut dire que Watson et Crick ont construit une hypothèse, mais Franklin en a fourni la preuve expérimentale.
Mais donc, pourquoi son nom a-t-il été longtemps mis de côté au profit de ses collègues masculins ?
Cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Le sexisme structurel dans le milieu scientifique des années 1950, La légitimité minimisée parce qu'elle était femme, jeune, brillante et indépendante dans un environnement très hiérarchique et masculin. Elle est morte avant de pouvoir défendre son rôle. Or, la construction des récits scientifiques est souvent faite par les survivants, majoritairement des hommes. Watson, dans son livre The Double Helix, a présenté Franklin de manière condescendante et biaisée, ce qui a longtemps influencé la perception publique.
Et dans quel thème ou approche revenait souvent dans ses recherches scientifiques ?
Ses travaux étaient cohérents autour d'un même fil conducteur, comprendre la structure de la matière à l'échelle microscopique grâce à la diffraction des rayons X. Les thèmes récurrents étaient la structure carbonée, charbon et graphite, l'ADN, le virus, notamment le virus de la mosaïque du tabac et les virus des plantes, et les matériaux désordonnés.
Pourquoi avait-elle une manière de travailler différente de celle de ses collègues hommes et comment cela a-t-il été perçu ?
Elle avait une approche beaucoup plus expérimentale et méthodique, tandis que Watson et Crick privilégiaient le raisonnement théorique et les modèles conceptuels. Elle ne publiait pas tant que ses données n'étaient pas solides, eux publiaient plus vite en se basant parfois sur des hypothèses. Cela a été perçu par certains collègues masculins comme de la rigidité ou un manque de vision, ce qui est ironique puisque sa rigueur a rendu possible la vision des autres.
Et comment Rosalind Franklin a-t-elle vécu la fin de sa carrière et quels obstacles a-t-elle dû affronter ?
Les dernières années de sa vie ont été très productives. Elle a dirigé un groupe de recherche performant au Bridget College et fait des avancées majeures en virologie. Mais elle a également affronté un cancer des ovaires diagnostiqué tardivement, une charge de travail très lourde, une reconnaissance insuffisante pour son travail antérieur et des conditions de recherche difficiles et parfois précaires. Malgré tout, elle a continué à travailler avec énergie et enthousiasme jusqu'à quelques mois avant sa mort.
Et maintenant, question pour nos deux étudiantes. Quelle solution avez-vous à proposer pour vaincre cette invisibilisation ?
Il faudrait revoir la manière dont on écrit l'histoire des sciences et donc intégrer systématiquement les conditions expérimentales, souvent minimisées, et mettre en lumière les travaux d'équipe, pas seulement les leaders masculins. Il faudrait également encourager la visibilité des femmes dans les institutions en mettant en avant les rôles féminins dans les découvertes majeures et l'équité dans les nominations aux prix scientifiques. Et enfin, il faudrait valoriser les approches rigoureuses et expérimentales autant que les théories. Beaucoup de femmes de l'époque, comme Franklin, étaient dans des domaines expérimentaux moins glorifiés que les théories.
Je pense que de prendre des femmes comme exemple dans les écoles, collèges et lycées pour les travaux de groupe ou autres pourrait être une solution pour toucher la jeunesse à ce sujet qui est encore invisibilisé ou minimisé par grand nombre de personnes. Et je pense aussi qu'il faudrait essayer de changer la mentalité de certains professeurs de sport qui utilisent des garçons comme exemple pour montrer les exercices et qui obtiennent des meilleures notes parce que pour eux, ils ont fait plus d'efforts. Alors qu'une fille qui va travailler beaucoup pour essayer d'avoir la meilleure note va avoir une note inférieure car son effort va être minimisé.
Je vous remercie de votre venue dans notre émission et d'avoir pu nous rappeler qui étaient ces grandes femmes, trop souvent oubliées, et de nous avoir partagé votre point de vue sur cette invisibilisation encore trop présente.
Merci de nous avoir invités.
C'était un immense plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Bonjour, nous sommes des élèves de seconde du LP2I, Pema, Claire, Aloïs et moi-même Noujoum. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'invisibilisation des femmes. L'invisibilisation des femmes est un phénomène très récurrent présent dans tous les milieux. Il consiste dans le simple fait que les femmes sont cachées, oubliées dans leur travail malgré leur importance. On les connaît régulièrement pour les mauvaises raisons, comme leurs relations amoureuses et autres. Elles sont effacées. Nous avons interviewé Hélène Vignal, une autrice, alors restée avec nous.
En début de carrière, aviez-vous conscience de cette inégalité de représentation entre autrice et auteur ? Si oui, à quel moment vous en avez pris conscience pleinement ?
En début de carrière, franchement, j'y pensais pas trop. J'étais contente d'être publiée, j'étais contente d'avoir rencontré une éditrice avec laquelle je m'entendais bien. Je discutais même pas les conditions financières de mes contrats. Il se trouve que j'étais salariée à l'époque en même temps. Donc, j'avais pas de préoccupations économiques. Mais en fait, c'est venu petit à petit. Et notamment, un peu avant 2020, ça devait être entre 2017 et 2020, je dirais quelque chose comme ça. Il y a une étude qui est sortie où en fait on s'est rendu compte que les autrices gagnaient moins d'argent que les auteurs. Et à l'époque, moi j'avais pris un mandat associatif de défense des droits des auteurs jeunesse dans une association nationale qui s'appelle la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse. Et donc on a fait, à ce moment-là, moi j'ai animé et co-organisé les assises de l'égalité en littérature jeunesse, au cours desquelles on s'est interrogé sur les disparités de revenus, mais pas seulement tout d'un coup, on s'est aussi aperçu que par exemple les femmes n'allaient pas aux résidences. Alors une résidence d'écriture, c'est un moment où tu quittes ton domicile, tu vas, à la Villa Bloch, par exemple à Poitiers, il y a un endroit de résidence littéraire, et tu es payé, tu reçois une bourse d'écriture, et tu restes dans cet endroit-là pendant un mois, deux mois, trois mois, pour écrire. Et par exemple, on se rendait compte que bah, les femmes, elles postulaient très peu aux résidences d'écriture, parce que pour pouvoir s'en aller de chez toi, il ne faut pas avoir d'enfants à charge, ou il faut pouvoir se dire que c'est complètement quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, il ne faut pas avoir de parents à charge, il ne faut pas avoir de contraintes. Et on s'est rendu compte, finalement, en creusant, que non seulement il y avait des disparités économiques, mais il y avait des disparités d'accès à des dispositifs d'aide aux auteurs. Et puis, il y avait beaucoup plus de complexes chez les femmes pour se mettre en avant. Par exemple, les femmes négocient, on s'est rendu compte par des études hein, aussi, que les femmes négocient moins leurs contrats d'édition que les hommes. Bref, c'est comme toujours cette question-là, plus on la creuse, plus on découvre d'inégalités, de disparités. Donc il faut déjà commencer par les mettre en évidence, non pas en prétendant, mais en prouvant. Et ensuite, il faut chercher les moyens d'y remédier. Voilà. Et quand on creuse la question des femmes, bah, inévitablement vient la question des disparités ethniques. Moi, je me dis, bah oui, d'accord, bon, ok, on parle de l'égalité des femmes, mais en fait, quand on se regarde entre nous, on n'est que des blancs. Alors que nos lecteurs, quand on va dans les classes, eh ben, y a une diversité. Pourquoi il n'y a pas de diversité? Il n'y a pas autant de diversité chez les auteurs. Enfin, du coup, quand tu tires un fil, finalement, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, bah, tu te rends compte que tu ne peux pas travailler un paramètre d'égalité sans avoir un regard sur tous les autres, en fait. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est une conscience qui s'est construite avec le temps, progressivement, petit à petit, mais qui depuis est vraiment forte. Ouais.
Avez-vous déjà eu affaire à des préjugés, inconscients ou conscients, en tant que femme écrivaine ?
Alors déjà, je suis femme écrivaine en littérature jeunesse, donc je pense que déjà le plus gros préjugé, c'est la littérature jeunesse n'est pas une littérature. Même si c'est, moi ça m'a jamais été dit comme ça, mais ça se sent dans les regards, ça se sent dans le... tu dis, ah, tu fais quoi? Ben, moi, j'écris des livres. Ah, super, t'écris quoi comme livre? J'écris de la littérature jeunesse. Et là, c'est fréquent que t'as les gens qui tournent les talons et qui te... Voilà, vraiment, du coup, tu sens tout de suite que t'es pas un vrai écrivain. Alors que beaucoup d'écrivains de littérature générale se sont essayés à la littérature jeunesse sans y parvenir, donc c'est pas si simple, apparemment. En tant que femme, les préjugés, je les ressens pas trop. Je n'y laisse pas non plus tellement... Enfin, comment dire, il n'y a pas trop moyen de me plaquer des préjugés, dans le sens où je suis assez connue dans le milieu maintenant pour être plutôt engagée sur ces questions-là. Donc, on va pas trop venir me chercher là-dessus. Je cherche des situations que j'aurais pu vivre... À part, effectivement, sur le plan économique, où à un moment donné, je me suis rendu compte que plein d'autres gens négociaient leurs contrats et que moi, je négociais pas les miens. Et là, je me suis dit, bah, c'est pas normal, c'est pas juste. Et là, je me suis rendu compte que je faisais partie de la communauté des femmes qui négociaient pas, alors que pour beaucoup d'hommes, négocier les contrats, c'était pas un sujet, quoi. Donc, je suis sortie de cette inertie et je me suis mise à négocier mes contrats. Sinon, non, j'ai pas fait l'objet de remarques sexistes en tant qu'autrice. En tant que femme, évidemment, moult fois, mais pas en tant qu'autrice.
Le syndrome de l'imposteur est-il un sentiment qui vous a habité et que pensez-vous qu'il est exacerbé par le fait d'évoluer dans un milieu où les figures d'autorité, acteurs classiques, critiques, influents, sont majoritairement masculines?
Bien sûr que je connais, hein. Je pense que toute autrice connaît ça, même les plus connues, les plus réputées en parlent. Mais alors l'imposture, elle est permanente, et même moi, après plus de 20 ans de publication, voilà, je ne suis pas connue, mais je n'ai pas de mal à travailler, je ne suis pas obligée de démarcher pour chercher du travail, enfin ça va. Eh bien, je peux quand même encore avoir tendance à me poser ces questions-là. Là, par exemple, en janvier 2026, j'ai publié mon premier livre en dehors de la jeunesse, un essai sur l'admiration, la question de l'admiration. Et c'est un essai qui va être publié dans une collection de philo. Et donc là, voilà, méga syndrome d'imposture. Quoi, moi, dans une collection de philo, n'importe quoi. Bon, voilà. Et après, je me raisonne. Je me dis, bah, tu fais confiance à l'éditrice qui a sélectionné ton texte et qui a dit qu'elle souhaitait le publier. Et dans cette collection-là, il y a des textes qui sont plus philosophiques et il y a des textes qui sont plus littéraires. Le mien fait partie des textes plus littéraires et ça va très bien comme ça et il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on a... Bon, après, moi, je trouve que, franchement, à condition de le tenir vraiment reine courte, comme on dit, ce syndrome-là, il présente quand même l'avantage de te laisser dans un état de questionnement, de doute, tu vois. Je pense que c'est pas des métiers où il faut être trop sûr de soi. Je pense que si on est trop sûr de soi, si on est trop dans l'affirmation, il y a quelque chose qu'on perd dans la subtilité, y compris dans notre travail, quoi. Quelque chose qu'on perd de la quête, du doute, de la recherche, de la... Quand on est trop sûr de soi, on est manichéen. Il y a le bien, le mal, il y a le vrai, le faux. Quand on doute, quand on se demande si on est à la bonne place, c'est assez sain, à condition que ça ne nous empêche pas de faire les choses. Voilà. Donc, les femmes ont l'habitude de douter, de se remettre en question. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui nourrit leur intelligence émotionnelle, leur intelligence relationnelle. Après, attention, il ne faut pas que ça soit, en effet, quelque chose qui nous empêche de faire les choses. Voilà. Il faut vraiment que ça reste une hygiène de vie, de douter, mais il ne faut pas que ça soit un frein, un obstacle, une limitation dans nos projets. Mais faire des projets en doutant, ma foi, je ne trouve pas ça si nul. En vrai, je ne trouve pas ça si... Je trouve que c'est assez intéressant.
Est-ce que tu peux me donner ta définition du syndrome de l'imposteur ?
Le syndrome de l'imposteur, pour moi, ce serait... un frein intérieur que tu cultives, que tu nourris et qui, en échange, te dévore et te limite. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on nourrit, qui est peut-être au départ installé par autrui, par la société, par le patriarcat, par un complexe de classe, ça peut être plein de choses. Au départ, ça, c'est comme un virus quoi, qui s'installe en nous. Et soit on l'ignore, on l'éradique et on le contre. Et à ce moment-là, il est assez faible et il prend pas beaucoup de place en nous. De temps en temps, il fait entendre sa voix. On lui dit « oui, bon, bah, tais-toi » et puis hop, on passe à autre chose. Mais si on le nourrit trop, alors à ce moment-là, ça devient une espèce de bestiole quoi en nous qui prend vraiment beaucoup beaucoup de place et qui nous modifie en fait et qui nous limite et qui nous empêche d'avancer, d'aller où on veut. Voilà, je dirais ça. Donc on n'est pas responsable du fait qu'il soit implanté en nous. Je pense que la responsabilité elle est collective, elle est sociétale, elle est... Mais là où on a une responsabilité et donc une chance de s'en sortir, c'est est-ce qu'on le nourrit ou pas ? Voilà. Est-ce qu'on, quand il se manifeste, est-ce qu'en gros on lui dit « ta gueule » ou est-ce qu'on lui dit « ouais, t'as raison, c'est vrai, oh là là, et puis là j'ai pas dit ça, puis là je vais pas être bien, et puis là machin m'avait bien dit que ça marcherait pas, etc. » C'est ça que j'appelle nourrir le syndrome de l'imposteur. Donc, on n'est pas obligé de nourrir cette chose-là. on l'a, bon, ok, mais on n'est pas obligé de le laisser se développer en nous.
Notre femme du jour est une femme souvent reconnue de la pire façon. Elle est l'une des mathématiciennes les plus influentes de son époque, mais on ne parle d'elle que pour ses histoires de cœur et d'amour. Émilie de Châtelet. Émilie est la fille aînée du baron Breteuil, et malgré le fait qu'elle soit une femme, son père lui donna la même éducation qu'à ses deux frères. C'est grâce à cela qu'elle a commencé à s'intéresser aux mathématiques et aux œuvres d'Isaac Newton. C'était une personne avide de connaissances. Alors, elle apprit plusieurs langues et toucha à tous les types de sciences qui existaient. En grandissant, elle devint une femme de lettres, une physicienne et une mathématicienne, mais tout cela est souvent oublié à cause de sa liaison avec Voltaire. Après des années d'expérimentation, Émilie fut même reconnue par l'Académie des sciences de Paris pour son mémoire sur la nature de la propagation du feu.
Mais ce n'est pas son seul travail qui nous est encore utile ou qui est présent dans nos vies aujourd'hui. On trouve par exemple la théorie sur l'énergie cinétique et sa proportionnalité à la masse et au carré de la vitesse, la traduction des Principia Mathematica et le discours du bonheur. Elle a aussi posé les bases du principe de conservation de l'énergie dans les années 1740, notamment à travers ses travaux. Et si je vous parle des Lumières, cela vous parle forcément les hommes et les femmes qui faisaient des maths et de philo. Eh bien, Émilie du Châtelet a une influence vraiment non négligeable dans l'encyclopédie et joue un rôle dans le mouvement intellectuel à l'origine de la philosophie des Lumières. Alors, maintenant, vous en saurez plus sur cette femme extraordinaire et ses travaux. Et vous ne penserez plus d'elle comme seulement une amante de Voltaire ou autre.